Merci d'écouter RFI. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Il est midi et demi en temps universel, 14h30 à Paris et c'est l'heure d'Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Anne Cantner, bonjour à toutes et à tous. La République démocratique du Congo envoie des mises en demeure au groupe Apple. L'État congolais accuse le géant de la tech d'utiliser des minerais exploités illégalement dans des mines congolaises et blanchies au Rwanda. Au Sénégal, le nouveau président Bassirou Diomaye Faye change les têtes dans les principales administrations publiques. 18 nominations ont été annoncées hier soir, de la radio-télévision publique au port de Dakar, en passant par la gendarmerie. La journée mondiale contre le paludisme, on fait le point à cette occasion sur le vaccin destiné aux nourrissons qui est en cours de déploiement en Afrique.
Reportage à suivre au Ghana et explication du docteur Abdulaziz Baya, responsable au bureau Afrique de l'Ouest et du centre de l'UNICEF, du déploiement des nouveaux vaccins.
Et puis le Kenya, noyé hier sous des pluies diluviennes, des inondations dans l'Est et à Nairobi, ont fait au moins 38 morts selon la Croix-Rouge. Est-ce le début d'un bras de fer judiciaire entre le groupe Apple et la République démocratique du Congo? La firme à la pomme est accusée par Kinshasa d'utiliser des minerais issus de ces mines, mais exploités illégalement. L'État congolais dénonce les nombreuses violations des droits humains qui s'y dérouleraient. Arthur Ponchelet, les avocats mandatés par le gouvernement de Kinshasa ont adressé des mises en demeure au groupe américain.
Oui, l'une à la maison mère d'Apple en Californie, l'autre à deux de ses filiales françaises. Kinshasa accuse la firme à la pomme d'utiliser des minerais stratégiques exploités illégalement en RDC par des milices armées soutenues par le Rwanda, dans des mines où travailleraient des enfants et des civils sous la contrainte, selon eux. Écoutez William Bourdon, il est l'un des avocats mandatés par Kinshasa.
Nous posons une liste de questions aux sociétés concernées au regard de leurs propres engagements de traçabilité. Il y a en creux un décalage entre le dispositif que prétend avoir mis en œuvre Apple et la réalité. Et on dit évidemment à Apple qu'on se réserve toute voie de droit, c'est-à-dire que toutes les options judiciaires sont sous la table.
Contacter le groupe Apple n'a pas répondu à nos sollicitations pour le moment, mais a renvoyé l'agence France Presse à son rapport annuel de 2023, rapport dans lequel il indique n'avoir aucune base raisonnable pour conclure que sa chaîne d'approvisionnement a directement ou indirectement financé ou bénéficié à des groupes armés en RDC ou dans un pays limitrophe. Cette action judiciaire intervient à quelques jours de la visite de Félix Tshisekedi en France, où il n'est pas exclu que ce dossier soit évoqué, alors que Paris n'a eu ces dernières années de cesse de marquer sa volonté d'améliorer ses relations avec Kigali.
Au Sénégal, le nouveau président Bassirou Diomaye Faye a annoncé hier soir une salve de nominations. Des nominations à des postes clés, Léa Lisa Westerhoff, 18 en tout à la gendarmerie, la radio-télévision publique ou encore au port de Dakar.
Oui, Diomaye et Sonko, du nom du président du Premier ministre, placent leurs hommes, titrait un journal ce matin. Un titre qu'on pourrait compléter, placent leurs hommes et limogent leurs adversaires, pourrait-on dire. Exemple avec le chef de la gendarmerie nationale, un poste clé. Le général Moussa Fall, qui était à sa tête, est remercié, accusé par l'actuel Premier ministre Ousmane Sonko d'être l'artisan de la répression violente des manifestations de l'opposition depuis sa nomination en 2021. Pour le remplacer, le général Martin Faye, avec un profil plus neutre, jusque-là numéro 2 de la gendarmerie nationale. Autre nomination très symbolique, celle à la tête de la radio-télévision sénégalaise, la RTS, le journaliste Pape Alain Niang, connu pour son opposition au régime de Macky Sall qui lui ont valu 2 séjours en prison, ce proche d'Ousmane Sonko prend donc la tête de ce média. Enfin, Walid Diouf Bodiang, autre proche qui a séjourné en prison, cet inspecteur des impôts et domaines est nommé directeur du port autonome de Dakar. Je ne vais pas citer ici l'ensemble des 18 postes, mais ce qu'on peut dire, c'est que presque tous ceux qui ont été choisis faisaient partie du directoire de campagne de Bassirou Diomaye Faye. Et comme l'analyse un chercheur, c'est un équilibre à trouver entre technocrates et fidèles qu'il faut promouvoir.
Autre annonce hier soir de la présidence, Léa Lisa, la création d'une commission d'indemnisation des victimes.
Oui, cette commission avait été promise par la ministre de la Justice sortante au moment de l'adoption de la loi d'amnistie début mars, mais rien depuis. Le président hier a donc demandé qu'une commission soit mise en place pour identifier déjà les victimes des manifestations de janvier 2021 à février 2024 et évaluer les préjudices subis. Très attendu sur cette mesure, Bassirou Diomaye Faye qui n'a cessé de dire depuis qu'il est au pouvoir qu'il n'oublierait pas ceux qui ont été tués ou blessés lors de ces manifestations violentes, mais pas de calendrier encore, Nicolas.
Léa Lisa Westerhoff, correspondante de RFI à Dakar. Le général Jen Heckman, directeur de la stratégie du commandement américain des États-Unis pour l'Afrique, l'Africom, est en visite aujourd'hui à Niamey. Au programme Kaoru Magasa, le retrait des forces américaines du Niger.
C'est exactement ça, et c'est aux côtés de l'ambassadrice américaine au Niger, Kathleen Fishbone, que le directeur de la stratégie de l'Africom fera face aujourd'hui aux autorités militaires nigériennes pour discuter d'un retrait, je cite, ordonné et responsable des forces américaines. Aucun engagement ni calendrier sur ce processus de retrait n'a pour l'heure été annoncé, mais les principaux défis de ce retrait se concentrent autour de la base aérienne d'Agadez. La quasi-totalité des soldats américains présents dans le pays y sont positionnés. Évacuer les hommes et le matériel en toute sécurité hors du Niger prendra, selon de nombreux analystes, plusieurs mois, cela avant que la base soit rétrocédée aux autorités nigériennes.
Alors, ces discussions sonnent le glas de la coopération militaire, mais pas des relations entre les deux pays.
Tout à fait, et selon le docteur Andrew Lebovitch, spécialiste des relations américaines au Sahel, le Niger était considéré comme un partenaire très fiable par Washington avant le coup d'État de juillet 2023 et une priorité dans la région pour l'aide au développement et l'humanitaire. Des dépenses importantes ont été engagées ces dernières décennies. Difficile donc pour les États-Unis d'opérer une rupture franche du partenariat avec le Niger. Dans un communiqué, le département d'État se félicite d'ailleurs de l'intérêt manifesté par les autorités militaires nigériennes pour le maintien d'une relation bilatérale solide, mais sur le plan militaire, il faut le rappeler, c'est dorénavant avec la Russie que le Niger souhaite opérer. Le ministre de l'Intérieur, le général Mohamed Toumba, est actuellement à Saint-Pétersbourg dans le cadre de la 12e conférence internationale des représentants pour les affaires de sécurité.
Au Mali, la coalition des groupes armés du Nord, CSP-PSD, n'existe plus. Elle devient le CSP-DPA, cadre stratégique pour la défense du peuple de l'Azawad. Un changement de nom, David Bachet, qui correspond également à une redéfinition des objectifs.
C'est Bilal Aga Chérif, chef du MNLA, qui va diriger le nouveau cadre stratégique pour la défense du peuple de l'Azawad. Cette coalition rassemble désormais tous les groupes armés du Nord en guerre contre l'État malien. Lors de sa création en 2021, le CSP-PSD rassemblait les mouvements indépendantistes de la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA, et les groupes pro-gouvernementaux de la plateforme. Il s'agissait alors d'appliquer l'accord de paix de 2015, aujourd'hui rompu. Depuis, la guerre a repris et certains membres du défunt CSP-PSD ont rallié les autorités maliennes de transition. Désormais, la CMA et la plateforme sont dissoutes. Mohamed El Maouloud Ould Ramadan, porte-parole du nouveau CSP-DPA, explique son objectif affiché.
C'est la défense du peuple de l'Azawad contre l'armée malienne et Wagner qui appliquent la politique de la terre brûlée contre nos communautés, qui ne font pas la différence entre la population et les mouvements. Donc, ils ne font aucune différence. Ils tirent sur tout ce qui bouge. La première victime, c'est la population de l'Azawad.
Les groupes armés qui combattaient jusqu'en 2015 pour l'indépendance des régions du Nord, désignées sous le terme d'Azawad, avaient abandonné cette revendication en signant le défunt accord de paix. Ils sont aujourd'hui les plus nombreux au sein du nouveau CSP-DPA, qui compte tout de même d'anciens membres de la plateforme, ayant toujours soutenu l'unité du Mali. L'indépendance de l'Azawad sera-t-elle une revendication officielle du CSP-DPA ? À ce stade, les discussions se poursuivent dans un lieu tenu secret.
Au Burkina Faso, l'armée pointée du doigt à nouveau dans de nouvelles accusations d'exactions envers des populations civiles. Human Rights Watch publie ce matin un rapport accablant. L'ONG affirme que 223 villageois ont été massacrés dans la province du Yatanga, dans le nord, Sidi Yansané.
Les massacres dans les villages de Nodin et Soro le 25 février dernier avaient déjà été documentés par RFI qui s'appuyait alors sur un bilan provisoire de 170 morts. Aujourd'hui, le rapport de Human Rights Watch en dénombre jusqu'à 223, parmi lesquels une cinquantaine d'enfants. L'ONG s'est entretenue avec une quinzaine de personnes témoins des tueries. Elle raconte qu'un convoi de plus de 100 militaires est arrivé en début de matinée à Nodin. Ils ont regroupé les villageois à l'extérieur avant d'ouvrir le feu. Le scénario va se répéter dans le village voisin de Soro. Selon les rescapés, les victimes ont été abattues suite à une attaque terroriste contre des FDS et leurs supplétifs VDP près de Waïgouya, la capitale provinciale. En représailles, les militaires ont exécuté les villageois, les accusant d'être des complices des djihadistes. Human Rights Watch compte ces massacres parmi, je cite, « les pires exactions commises par l'armée burkinabé depuis 2015 et qui pourraient constituer des crimes contre l'humanité ».
Une affaire qui remonte à décembre 2017, ce coup de filet au Cameroun contre des personnes majoritairement tchaliennes, accusées de tentative d'assassinat contre le président de la Guinée équatoriale voisine. Après 4 ans de procédure, une trentaine de prévenus avaient été condamnés à des peines de 30 à 35 ans de prison. Ces personnes ont été finalement acquittées en appel en février, mais depuis elles sont toujours détenues, Amélie Tulé.
Le 15 février dernier, quand la cour d'appel du centre rend sa décision, elle infirme en partie le jugement rendu en 2022 par le tribunal militaire de Yaoundé. Ainsi, elle déclare tous les accusés non coupables de conspiration d'assassinat, hostilité contre la patrie et introduction et transport d'armes. Elle les acquitte donc. En revanche, elle déclare 12 d'entre eux coupables d'immigration clandestine. Pour cela, elle les condamne à des amendes de 2 millions de francs CFA chacun et à 2 ans de prison. Mais tous ont déjà passé 6 années, soit le triple de leur peine, derrière les barreaux. Leur avocat, maître Emmanuel Sim, dénonce le fait que cette détention se prolonge encore plus de 2 mois après la décision de la Cour.
J'ai fait des démarches administratives auprès du commissaire du gouvernement et auprès du directeur de la justice militaire qui m'a dit attendre les instructions de sa hiérarchie. Je ne comprends pas qu'on attende un quelconque ordre d'un supérieur hiérarchique pour simplement exécuter une décision rendue de manière régulière par des juridictions camerounaises établies par l'État du Cameroun.
L'avocat dit aussi avoir saisi le ministère tchadien des Affaires étrangères à travers l'ambassade du Tchad au Cameroun. Les détenus tchadiens, eux, ont écrit au parquet pour demander la transmission des résultats d'audience à la prison centrale de Yaoundé pour qu'ils puissent être libérés.
Il est 13h42 à Yaoundé.
Afrique Midi sur RFI.
Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, Nicolas, sur la journée mondiale contre le paludisme.
Reportage au Ghana, l'un des pays où a été déployé le nouveau vaccin infantile contre la malaria dès 2019. On en reparle également avec notre invité. Des inondations meurtrières au Kenya, au moins 38 morts suite à des pluies diluviennes dans l'est du pays et à Nairobi, la capitale. Et puis l'anniversaire de la révolution des œillets, il y a 50 ans au Portugal, la fin de la plus vieille dictature d'Europe. Le début de la fin aussi pour les guerres d'indépendance dans les colonies portugaises. L'ancien président mozambicain Joaquim Chissano s'en souvient. La journée mondiale de lutte contre le paludisme, il y a 2 ans encore, la malaria tuait 600 000 personnes chaque année, 95% d'entre elles en Afrique. Depuis, un vaccin infantile apporte l'espoir d'une réduction drastique des formes graves et mortelles. Il est en cours de déploiement sur le continent après avoir été expérimenté en phase pilote au Kenya, au Malawi et au Ghana. La mortalité infantile due au paludisme est désormais en recul grâce à des campagnes massives menées au plus près des populations. Au Ghana, notre correspondant Victor Cariou s'est rendu dans l'un de ces centres de proximité.
Une petite piqûre sur le bras et ça y est, Precious, fillette de 10 mois à peine, a reçu sa 3e dose du RTSS, l'un des 2 vaccins contre le paludisme. Un soulagement pour sa mère, Victoria.
Les enfants, quand ils ont le paludisme, ça peut être très dangereux. Ils ne peuvent pas exprimer leur douleur. Donc j'ai beaucoup aimé quand ils ont commencé la vaccination pour nos enfants.
Elles sont une trentaine de mères et autant de bébés à s'être regroupées ce matin sous le préau d'un des centres de santé de Boudouburam, ville à l'ouest de la capitale, Accra. Pour les accueillir, Felicity Otu, responsable du contrôle des maladies pour le système de santé ghanéen.
Les gens ici ont bien accueilli le vaccin, surtout parce que nous avons pu leur donner de bonnes informations sur les bénéfices sanitaires du vaccin avant que nous commencions vraiment à le faire.
Ces séances gratuites sont aussi l'occasion de faire un suivi médical, de prescrire des traitements en cas de besoin, de répondre aux questions des parents, autant d'aspects primordiaux dans la lutte contre le paludisme. Felicity Otu.
La lutte contre le paludisme, ce n'est pas juste le vaccin. Par exemple, il faut que les parents s'assurent que leur enfant soit correctement nourri. Parce que si l'enfant reçoit le vaccin sans avoir les nutriments nécessaires, comment peut-il développer les anticorps ?
Au total, dans les zones pilotes du programme de vaccination au Ghana, plus de 80% des nourrissons âgés de 6 mois à 1 an ont pu recevoir une première dose de vaccin. Victor Cariou, de retour de Boudouburam, RFI.
D'intenses précipitations ont provoqué hier des inondations meurtrières au Kenya. 38 morts selon un premier bilan de la Croix-Rouge et 30 000 personnes déplacées, essentiellement dans l'est du pays et à Nairobi, la capitale, Gaël Lalex.
Ce matin, les quartiers populaires de Kibera et Mataré sont encore les pieds dans l'eau. 10 personnes sont mortes dans les inondations d'hier, selon la police. 6 autres sont portées disparues. Hier, le président William Ruto a convoqué les gouverneurs de régions et responsables de comtés dans une réunion d'urgence. Il a annoncé la création d'une équipe interagence pour faire face à la crise. Le ministère de l'Intérieur, les services du développement des régions et de la jeunesse, par exemple, sont mobilisés. Le leader de l'opposition, Raila Odinga, a quant à lui demandé au gouvernement de déclarer les inondations comme désastre national afin de permettre le déblocage de tous les mécanismes d'urgence, notamment le déploiement de l'armée. Ces inondations relancent également le débat sur la prospection immobilière galopante à Nairobi. Elles ont mis en exergue la faiblesse du système de drainage de la ville alors que des chantiers bloquaient de nombreuses évacuations d'eau. Le chef du comté de Nairobi a annoncé la suspension des projets immobiliers construits sur les terres en amont de la capitale. Gaëlle Lalex, Nairobi. RFI.
Des pluies qui sont liées au phénomène climatique El Niño, même cause, mêmes effets en Tanzanie, où le Premier ministre a fourni ce matin un bilan global de 155 morts, sans préciser toutefois depuis quand ces décès ont été enregistrés. On connaîtra la semaine prochaine les 3 finalistes du prix Marc Villain-Fauré, décerné par RFI et France 24, au meilleur footballeur africain de saison de la Ligue 1. Pour l'heure, ils sont encore 11 en compétition, 11 joueurs dont nous retraçons chaque jour la saison. Et aujourd'hui, Kylian Tanguy, vous nous parlez de celle du Sénégalais Lamine Camara.
Un but de 58 mètres face à Monaco en octobre, c'est l'exploit de Lamine Camara cette saison. Mais le milieu de terrain du FC Metz avait bien préparé sa tentative.
Ça fait un moment que je suis leur match. J'ai vu que le gardien, parfois, il sort de sa ligne. Et il est trop loin de ses cases. Donc, dès que l'occasion s'est présentée, j'ai pas hésité. Je l'ai mis.
Un tir qui a enchanté son entraîneur Laszlo Boloni.
Il nous a énervé avec ces gestes-là. Mais il est un geste sur lequel tu ne vas pas bâtir ta carrière. Plutôt ça, il me parle d'autre chose, qu'il a une clairvoyance, et cette fois-là, ce qu'il a vu, il a pu exécuter. Maintenant, dans le jeu aussi, j'attends la même chose de sa part.
L'ancien joueur de Génération Foot, arrivé au club en 2023, a bien répondu aux attentes. Le Sénégalais de 20 ans est un titulaire indiscutable et une réelle pièce maîtresse dans le jeu du club lorrain.
Un anniversaire à présent, il y a 50 ans, la révolution des œillets mettait un terme à la dictature au Portugal. Et par la même occasion, elle ouvrait la voie à l'indépendance de ces anciennes colonies africaines avec qui le régime Salazar était en guerre depuis plus de 10 ans. Au Mozambique, notamment. À l'époque, l'ancien président Joaquim Chissano était un combattant du Frelimo, le mouvement qui luttait pour l'indépendance. Il se souvient aujourd'hui de ces heures qui écrivirent l'histoire.
Nous avons appris des nouvelles du coup d'État en Portugal à travers la radio. Moi, personnellement, et d'autres compagnons, nous étions au camp d'entraînement politico-militaire du Frelimo en Tanzanie. Et nous avons compris que c'était un coup d'État qui pourrait éventuellement avoir des manœuvres des gens qui ne voulaient pas d'indépendance de Mozambique, mais qui voulaient jouer d'autre façon une décolonisation qui n'était pas celle que nous souhaitions. Mais en même temps, nous avons compris que c'était à cause des forces armées qui étaient fatiguées de cette guerre. Donc, nous avons pris l'attitude que le coup d'État serait déjà de la fin, peut-être du fascisme, mais nous ne pourrions pas assumer que c'était la fin du colonialisme. Donc il fallait continuer la lutte jusqu'à ce qu'on ait les conditions pour avoir notre indépendance.
Les souvenirs de Joaquim Chissano, président du Mozambique entre 1986 et 2005, avec Liliana Henriquez. Anne Kantner, les grands titres de ce jeudi 25 avril 2024.
Élections municipales au Liban, pas plus que les années précédentes, nouveau report. Les autorités invoquent les violences qui secouent le sud du pays, les affrontements quasi quotidiens entre le Hezbollah et Israël. À la une aussi, la vision de l'Europe d'Emmanuel Macron. En campagne ce matin, alors que son parti est mal engagé pour les européennes de juin, un long discours de près de 2 heures. Durant lequel le président français a mis en garde contre le risque de voir l'Europe disparaître. Il a aussi appelé à une politique de défense crédible pour les 27, prenant même la dissuasion nucléaire. Le chancelier allemand estime à l'instant que ce discours contient de bonnes impulsions. Le secrétaire d'État américain est à Pékin. Il doit s'entretenir avec de hauts responsables chinois. Mais aucune rencontre n'est annoncée entre Anthony Blinken et le président Xi Jinping. Le gouvernement espagnol annonce la mise sous tutelle de la Fédération de football au centre d'une enquête pour corruption après un précédent scandale. Le baiser forcé imposé à une joueuse par son ex-président Luis Rubiales. Et puis c'est ce soir la cérémonie des flammes qui récompense les meilleurs du rap français. Aya Nakamura est nommée dans 6 catégories. On suivra aussi Werenoi en lice dans 4 catégories ce soir. Voilà pour le programme, mais tout de suite, Afrique Midi se poursuit. Avec l'invité d'Afrique Midi, ce 25 avril, c'est la journée mondiale contre le paludisme. La malaria fait toujours des ravages en Afrique, mais la mise au point de nouveaux vaccins destinés aux enfants permet désormais enfin l'espoir. On en parle avec votre invité Nicolas Sûr, le docteur Abdulaziz Baya, responsable de l'introduction des nouveaux vaccins au bureau UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale.
Bonjour docteur Aziz.
Bonjour Nicolas.
Deux vaccins ont désormais été homologués par l'OMS, le RTSS et le R21. À l'heure actuelle, seul le RTSS est distribué en Afrique. Il est destiné aux enfants. Première question, à quel point est-il efficace? Que disent les études?
Les résultats enregistrés dans les 3 premiers pays qui ont eu à introduire le vaccin, à savoir le Ghana, le Kenya et le Malawi, la mise en œuvre du vaccin a entraîné une réduction substantielle des cas graves dans les zones où le vaccin avait été administré.
De quel ordre?
On a constaté, par exemple, une baisse de 13% du nombre de décès chez les jeunes enfants et une réduction de 22% des cas d'hospitalisation. Il faut juste préciser que l'impact mesuré lors de la mise en échelle de ce vaccin s'ajoute à celui d'autres moyens de prévention de lutte contre le paludisme, à savoir la chimioprévention saisonnière et l'administration de moustiquaires imprégnés d'insecticides.
Oui, ça reste des gestes barrières indispensables malgré l'existence de ce vaccin, on est d'accord?
Oui, parfaitement d'accord. Le vaccin s'ajoute à l'action des autres moyens de prévention et de lutte contre le paludisme.
Alors, on va être très concret, docteur Aziz. Comment et à quel âge ce vaccin doit-il être administré?
Selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, le calendrier vaccinal pour le vaccin antipaludique débute à l'âge de 5 mois pour un cycle de 3 doses espacées d'un minimum de 4 semaines d'intervalle. Pour un maximum d'efficacité, il est conseillé d'administrer une 4e dose lors de la 2e année de vie de l'enfant et dans certaines conditions, dans les zones à forte transmission, il est également recommandé, selon les cas, d'administrer une 5e dose de vaccin à l'enfant pour accroître sa protection.
Alors, vous nous avez dit, docteur, que le RTSS a été expérimenté à partir de 2019 au Ghana, au Malawi et au Kenya. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, où en est-on du déploiement de ce vaccin?
Bon, juste pour préciser, le vaccin a été expérimenté depuis plus de 30 ans. Le programme pilote d'introduction du vaccin a effectivement démarré en 2019 au Ghana, au Malawi et au Kenya. Et depuis le début de l'année 2023, l'introduction dans les programmes élargis de vaccination des pays en Afrique a débuté, notamment au Cameroun, qui a introduit ce vaccin le 22 janvier, mais également le Burkina Faso a suivi par une introduction dans son programme élargi de vaccination dès le 6 février. Et il s'en suit aujourd'hui même, consécutivement à la Journée mondiale de lutte contre le palu, 3 pays de notre région Afrique introduisent le vaccin, à savoir le Bénin, la Sierra Leone et le Libéria. Les autres pays ont programmé également d'introduire ce vaccin tout au long de l'année 2024 et en 2025. Je peux citer notamment la République démocratique du Congo, le Nigeria, le Niger, la République centrafricaine, le Tchad, mais également le Burundi, la Tanzanie et les autres pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre.
Alors l'objectif, docteur, c'est donc de vacciner le maximum d'enfants. Ça a un coût. Est-ce que le financement est assuré?
Les pays sont engagés, ils mettent des ressources, mais également les partenaires sont là pour les appuyer, notamment dans l'allocation et l'approvisionnement en vaccins et en intrants pour la vaccination, mais également tout ce qui est en ressources humaines, en partage d'expériences et en appui à l'introduction de ce vaccin.
Est-ce que vous avez constaté des réserves, des méfiances contre l'introduction de ce vaccin dans les pays où ça a été le cas? Comme on a pu le voir pour d'autres vaccins ces dernières années.
Oui, effectivement, Nicolas, nous avons pu constater des hésitations et même de la désinformation. Je donne juste l'exemple. Lorsque les vaccins ont été réceptionnés au Cameroun en novembre, il y a eu des rumeurs qui ont été soulevées à l'effet que les vaccins n'étaient pas efficaces. Les vaccins étaient des tests pour les enfants. Mais nous sommes mobilisés en accord avec tous les partenaires. Le gouvernement du Cameroun, appuyé par les partenaires, a eu à contrer ces rumeurs et juste préciser que l'hésitation à l'égard de la vaccination et la désinformation constituent vraiment des défis importants auxquels nous faisons face. Mais heureusement, des actions ont été prises et les populations ont été sensibilisées et la bonne information leur a été apportée pour accroître leur adhésion à la vaccination.
Docteur Aziz, la vaccination anti-paludique représente donc un énorme espoir. Est-ce qu'une éradication totale du paludisme est aujourd'hui possible?
Pour parler d'éradication, je crois qu'il faudra qu'on atteigne un certain taux d'élimination et que des pays puissent vraiment éradiquer. Bon, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que avec tous les moyens disponibles pour la prévention, nous pouvons, par exemple, aller vers un contrôle, une élimination, mais l'éradication est une autre étape. Je donne juste l'exemple dans notre région. Le Cap-Vert a été déclaré malaria-free en ce début d'année 2024 parce qu'il est resté au moins pendant 3-4 ans où il n'y en a pas déclaré de cas autochtones. Donc l'éradication, c'est possible, mais il faudra vraiment conjuguer beaucoup d'efforts encore pour pouvoir atteindre ce niveau d'éradication.
Merci, docteur Abdulaziz Baya. Je rappelle que vous êtes responsable de l'introduction des nouveaux vaccins au bureau UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Cet entretien sera retrouvé sur le www.rfi.fr et sur nos applications. L'Afrique du Sud fêtera dans quelques jours les 30 ans de la démocratie. Le 27 avril 1994, les premières élections libres de l'histoire de ce pays mettaient un terme à l'apartheid. Et on revient aujourd'hui sur l'un des programmes phares de lutte contre les discriminations mises en place à l'époque par l'ANC de Nelson Mandela, les maisons RDP, programme de reconstruction et de développement, un plan qui visait à offrir des logements salubres aux populations maintenues dans la pauvreté sous l'apartheid et à favoriser leur accès à la propriété. 30 ans plus tard, ces maisons bien reconnaissables ont bourgeonné dans les périphéries des grandes villes, mais il reste des problèmes, Claire Bargelès.
Selon les chiffres officiels, il existe désormais près de 3 millions de ces maisons RDP. Mais leur qualité ou leur taille ont pu décevoir alors que le gouvernement s'est vite fait dépasser par la demande. Cello, au chômage, a hérité du vieux logement social de sa mère décédée, une habitation qui n'a jamais été terminée.
Vous voyez, c'est à moitié fini avec la chambre. Les briques s'arrêtent là. Ils ont juste construit une chambre et des toilettes. Si on a l'argent, on peut finir. Mais à l'époque, ma mère n'avait pas de travail. Donc on a complété avec de la tôle et du carton ici pour protéger de la pluie et du vent. Quand il pleut, l'eau rentre quand même. C'est tout mouillé par là.
Si un foyer gagne moins de 170 euros par mois, il peut en théorie devenir propriétaire d'une de ces maisons RDP de façon gratuite et aura le droit de la revendre au bout de 8 ans. Mais par exemple, dans la région autour de Johannesburg, il existe, selon les autorités, une liste d'attente de plus d'un million de personnes. Lassée de patienter, Morgane, la cinquantaine, a fini par construire illégalement une maison en tôle sur un terrain vide.
J'avais bien déposé un dossier il y a au moins 15 ans et j'attends toujours. Je ne sais pas ce qui se passe. Je me suis construit cet abri, alors ça va. Mais je ne comprends pas pourquoi ils ne respectent pas leurs promesses. Il vaut mieux ne rien promettre du tout plutôt que de faire des promesses en l'air. Maintenant, on demande des terres et on construira nos propres logements et je pense que ce sera mieux.
À d'autres endroits, ce sont des projets de maisons RDP en cours de construction qui ont été occupés de force. Le programme a donc connu des ratés, mais cela reste une politique généreuse et ambitieuse pour Johan Foury, professeur d'économie à l'université de Stellenbosch.
On peut saluer le gouvernement pour avoir voulu aider le plus de gens possible avec des contraintes budgétaires et des limites aux capacités à construire rapidement. Il y a certes des critiques autour de la façon dont cela a été fait. Souvent, ces maisons RDP sont en périphérie des villes et les gens doivent ensuite dépenser beaucoup en transport pour aller travailler ou faire des courses. Ça les a placés dans une sorte de piège. Aujourd'hui, on peut se dire que le gouvernement aurait dû faire ceci ou cela, mais je ne suis pas sûr qu'à l'époque cela aurait été possible ou envisageable.
Des limites dont Cyril Ramaphosa a en tout cas bien conscience, puisqu'il a récemment promis vouloir s'assurer que les logements sociaux soient situés plus près des emplois et des services. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
Et c'est ainsi que se referme cette demi-heure africaine. Merci pour votre attention.
À demain, Nicolas Sûr. Merci à tous d'avoir été avec nous. Vous ne bougez pas, restez sur RFI. On se retrouve dans quelques secondes.
La grande finale du Challenge Up Afrique s'est déroulée en public à l'Institut français de Côte d'Ivoire. Pour l'occasion, Igor Strauss a invité les trois finalistes du concours à participer à l'émission C'est pas du vent, spéciale Challenge Up Afrique. Découvrez leur projet et l'identité du grand vainqueur sur nos antennes ce jeudi à 14h10 TU. En partenariat avec le groupe CFAO, Digital Africa, l'Institut de recherche pour le développement, Ayoba, Viva Technologies, Club Abidjanville Durable, EcoBank et Digital Energy Facility.